Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmoundi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Vous qui nous écoutez sur 75 radios sur l'ensemble du territoire national, bonsoir et bienvenue à ce débat dont le thème est « Crise sécuritaire au Mali, les enfants sont-ils pris au piège ?» Plus de 150 enfants ont été tués au cours du premier semestre de 2019, selon un rapport de l'UNICEF. Quelles sont les limites des mesures de protection des enfants au Mali? Comment les améliorer? Pour en débattre, nous avons trois invités. Eliane Luki, elle est chef de communication à l'UNICEF, elle est au téléphone. Haruna Asamake, chef division protection de l'enfant à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Monsieur Haruna, bonsoir. Toumani Ibrahim Konta, il est rapporteur général du bureau du Parlement des enfants de Mopti. Monsieur Konta, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis Emirana Kilo Maïga, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Plus de 150 enfants ont tué. Eliane Luki, pouvez-vous nous faire un résumé du rapport de l'UNICEF?
Bonsoir. Donc, effectivement, nous avons analysé les données préliminaires des Nations Unies par rapport à la situation des enfants affectés par la crise au Mali, chiffres qui ont révélé effectivement que lors du premier 6 mois de l'année 2019, 154 enfants ont été tués dans des attaques violentes. Donc, pour vous donner une idée, il s'agit du double du nombre qui ont été tués en l'année 2018. Donc, c'est vraiment très, très préoccupant pour nous et les autres acteurs de protection de l'enfance. Nous avons aussi constaté une augmentation du nombre d'enfants blessés ou mutilés. 75 enfants ont été blessés de manière grave en ce début d'année 2019, donc surtout des blessures qui sont en lien avec des blessures par balles ou bien des brûlures. Certains enfants ont reçu des brûlures quand leur village ont été brûlés, et aussi des fractures. Donc aussi une augmentation importante au niveau des enfants blessés. Et puis, dernière préoccupation, nous avons aussi constaté une augmentation du nombre d'enfants recrutés et utilisés dans les groupes armés. Nous avons en ce début d'année 99 cas d'enfants utilisés dans les groupes armés, ce qui constitue aussi une augmentation très nette par rapport à l'année d'avant, et aussi plus de cas de détention. Donc, pour vous donner un résumé, il s'agit vraiment d'une augmentation assez nette de violations graves commises contre les enfants en ce début d'année. C'est vraiment très, très préoccupant. Et bien sûr, c'est en lien avec la détérioration de la situation humanitaire, surtout dans les régions du centre de Mali, où nous avons constaté une forte augmentation de présence des groupes armés, mais également des tensions intercommunautaires, des attaques à répétition qui ont été commises dans les villages, malheureusement au moment où les enfants étaient les plus vulnérables. Donc, par exemple, l'attaque qui a été commise à Ogotagou a été commise très tôt le matin, alors que les enfants étaient encore endormis, ou certains étaient en train de se réveiller le matin. Donc, vraiment au moment où les enfants étaient les plus vulnérables. Donc, on peut vraiment dire que c'est les enfants les plus vulnérables qui paient le prix de cette crise au Mali.
Alors, 154 enfants ont tué, une situation préoccupante selon l'UNICEF. Monsieur Haruna Samake, vous êtes de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Et quelle analyse faites-vous de ce rapport?
Merci bien pour cette question. Je crois que c'est un rapport. L'analyse qu'on fait de ce rapport, c'est que la situation est dramatique, alarmante. Parce que 150 enfants, il n'y a que pour le premier semestre, c'est une situation qui interpelle encore tout le monde, tous les acteurs à tous les niveaux. C'est pour dire que nous devons encore redoubler d'ardeur. Parce que les enfants, ils n'ont rien fait, c'est des innocents. Ils ne participent pas aux guerres, malheureusement, c'est eux qui sont les premières victimes de cette situation avec les femmes. Donc, l'analyse qu'on veut, c'est que c'est une situation qui interpelle tout le monde. C'est-à-dire que tous les acteurs, même la population, donc tout le monde est interpellé Et nous devons faire tout, je dis bien faire tout, pour stopper cette situation. Parce que le sort, c'est vrai que lorsque les enfants subissent effectivement ces genres d'atrocités, j'avoue que c'est l'avenir même du pays qui est menacé.
Vous avez dit que la situation est alarmante. Alors, qu'est-ce que l'État attend faire avant, bien avant que l'UNICEF ne sorte un rapport sur cette question?
Non, c'est vrai que l'État fait toujours tout avec l'UNICEF. L'UNICEF, qui est un des partenaires très clés par rapport à cette situation, autant l'État, mais l'État aussi n'est pas seul, l'État avec les partenaires dont l'UNICEF. Donc, les actions sont en cours, les actions ont toujours été menées, les actions sont en cours pour faire en sorte qu'on puisse abréger la souffrance des uns et des autres, les enfants. Maintenant, comme vous le savez, dans une situation d'urgence, surtout en tout cas comme celle du Mali, vous avez avoir la volonté, vous savez qu'il y a des zones qui sont inaccessibles. Souvent, il y a la volonté, mais souvent, il y a effectivement cette incapacité, impossibilité, en tout cas pour les acteurs, d'accéder aux cibles, d'apporter l'aide humanitaire aux cibles. Souvent, c'est la situation qui se pose et qui fait que souvent, lorsque les gens sont pris entre les deux feux, ouais, déjà, ça débouille sur ces dernières situations. Donc, ce qui fait, mais ça ne veut pas dire que l'État, non, l'État fait toujours quelque chose, l'État fait de son mieux avec ses partenaires de façon plus ou moins coordonnée. Mais c'est une situation malheureusement que personne n'a voulu et que nous regrettons et que nous devons tout faire pour éviter que ce genre de situation ne se répète.
Ibrahim Hatoumani Ibrahim Konta, vous êtes rapporteur général du bureau du Parlement des enfants de Mopti. Comment vous avez accueilli cette nouvelle du rapport de l'UNICEF?
Bon, cet rapport, moi je dis que c'est très bien parce que parlons même de la protection de l'enfant. La protection de l'enfant est un ensemble de droits ayant pour finalité l'intérêt même de l'enfant. Donc moi, la protection même de l'enfant prend compte des besoins physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de l'enfant. Donc moi, je pense que l'UNICEF est toujours là pour les enfants. Et malgré cette attaque d'Ogossagou, qui a laissé sur ses chemins beaucoup de morts d'enfants. Donc moi je dis que les enfants, ils ne sont pas victimes. Donc les enfants, ils sont vulnérables. Donc les enfants ont droit, ils ont droit de défendre leurs droits. Vous voyez.
Les enfants sont invulnérables. Madame Eliane Louchi, qu'est-ce qui explique cette situation des enfants au nord et au centre du pays?
Donc je pense qu'effectivement, ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment le reflet, la conséquence tragique de cette crise qui se propage, surtout dans le centre du Mali. C'est là où nous avons constaté le plus d'attaques qui ont coûté la vie à des enfants et à leurs familles. Je pense qu'il faut dire, c'est qu'il faut aller au-delà des chiffres, ces chiffres qui sont tragiques et qui sont choquants. Il faut savoir que la crise touche beaucoup, beaucoup plus d'enfants que juste ceux qui ont été directement affectés, directement attaqués. Nous savons que, par exemple, dans la région de Mopti, qu'il y a un phénomène de déplacement très fort qui est en cours. Il est estimé aujourd'hui, le gouvernement et l'organisation de la migration estiment à plus de 70 000 personnes qui seraient déplacées à l'intérieur de Mopti. Nous savons que les enfants qui sont en déplacement sont toujours plus vulnérables que les autres enfants. Ils sont souvent à risque, par exemple, d'abandon scolaire parce qu'ils ne sont plus à côté de leur structure d'école. Nous savons aussi que certains de ces enfants qui sont en déplacement sont séparés de leur famille. Et nous savons aussi que certains de ces enfants, et nous le voyons aussi sur les camps de déplacés, les sites de déplacés au niveau de Mopti, certains de ces enfants ont des traumatismes psychologiques parce que c'est les enfants qui ont vécu, qui ont vu les pires violences et qui ont vraiment besoin de notre appui pour commencer à guérir, commencer à se rétablir. Donc certains enfants que nous avons rencontrés dans ces sites avait fait des cauchemars, avait fait des insomnies. Certains avaient du mal à parler, même de parler, après avoir vu ce qu'ils ont vu quand leur village avait été attaqué. Donc les besoins en termes d'appui psychosocial sont énormes. Et nous travaillons avec les autorités locales et aussi avec des ONG partenaires pour fournir cet appui. Mais à l'heure actuelle, nous estimons à plus de 370 000 enfants qui ont besoin d'une assistance en matière de protection. Donc c'est énormément d'enfants qui ont besoin de notre aide et nous avons aussi lancé un appel à nos partenaires pour pouvoir venir en aide à ces enfants qui sont le plus dans le besoin.
Alors, vous avez les chiffres avancés dans ce rapport. Est-ce qu'il concerne uniquement le centre du pays ou c'est l'ensemble du nord et du centre qui est concerné dans ce rapport?
Alors, bien sûr, je pense que les chiffres dont on parle, il s'agit vraiment de toutes les régions qui sont touchées par la crise. Donc, nous savons, par exemple, qu'effectivement, à Mopti, c'est là où on a vu la dégradation la plus nette de la situation humanitaire. Et donc, ça veut dire que c'est là aussi que les besoins sont vraiment en augmentation de manière très remarquée.
Au centre du pays, mais, à Mopti.
Ou dans la région de Mopti, exactement. Mais bien sûr, quand on regarde, par exemple, les chiffres au niveau des recrutements et des détentions, nous savons aussi que ça, c'est un phénomène qui se passe aussi beaucoup dans les régions du nord du pays. Donc Tombouctou, Gao et Kidal. Nous avons plusieurs cas de recrutement et d'utilisation qui sont dans les régions du nord.
Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit combien y a-t-il à Mopti, les enfants qui ont été victimes? Combien à Mopti?
Le nombre d'enfants qui ont été victimes de quelles violations exactement?
Qui sont morts, qui ont été tués. Ouais.
Donc le chiffre que nous avons avancé, en fait, ça contient toutes les régions, hein, toutes les régions qui sont affectées par la crise. Maintenant, nous avons des chiffres qui sont spécifiques à certaines attaques. Donc, par exemple, l'attaque à Agosugu, nous savons que cela a entraîné la mort de 85 enfants. Donc vraiment un bilan très très lourd. Ces chiffres ont d'ailleurs été révisés par la suite à la hausse une fois que toutes les vérifications étaient en cours, parce que ces chiffres sont toujours vérifiés par trois sources. Et puis nous savons que par exemple l'attaque de Soban a causé la mort de 24 enfants. Donc vraiment le bilan est très très lourd dans les villages qui ont été les plus touchés.
D'accord. Monsieur Haruna Asamake, qu'est-ce qui a favorisé ces violences contre les enfants?
Bon, ça c'est quelque chose. Vous savez que lorsque une crise éclate ou une situation d'urgence éclate, c'est-à-dire que ça affecte tous les mécanismes de protection des enfants. Cette situation est favorisée parce qu'il y a une faiblesse, sinon il y a une détérioration des mécanismes de protection à tous les niveaux, surtout au niveau local, parce qu'on est au niveau communautaire. Donc c'est un peu ça. Chaque fois que les mécanismes de protection sont fragilisés, malheureusement, ça va évidemment impacter les conditions de vie et de protection des enfants. Donc, parce que ce qui est arrivé, ces enfants qui ont perdu la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas pu être protégés. C'est très simple, c'est ça. Sinon, lorsque les situations, c'est-à-dire que si ces enfants étaient dans un environnement vraiment garanti, qui fait qu'effectivement il y a des actions pour les faire en sorte qu'ils puissent être épargnés de ces massacres-là, mais quand la situation a éclaté, qui était là? Ces enfants étaient là avec leurs parents, avec leur maman, avec leur père, sans aucune défense, sans aucun mécanisme de protection vraiment formel qui les garantissait effectivement, qui les donnait la chance de vivre encore. Donc malheureusement, comme je l'ai dit, chaque fois qu'il y a crise, vous allez voir que les systèmes, les mécanismes de protection effectivement sont affectés. Et lorsque ces systèmes sont affectés, effectivement, ça va évidemment jouer sur, en tout cas, les chances de tel ou tel enfant à survivre ou bien à résister au choc. Donc, c'est un peu ça. Je voulais ajouter un peu par rapport à l'appareil un peu, effectivement, de ces enfants associés. Parce qu'on a dit que chaque fois qu'il y a crise, les risques sont tellement énormes. Au-delà des dangers, des blessures.
Il a parlé de 99 enfants utilisés dans les groupes armés.
Oui, justement. C'est vrai que peut-être que ça peut même être encore plus que ça, parce que quand je prends notre structure, nous en tant que structure nationale, qui a la charge d'accueillir à travers un protocole qui nous lie. Quand je dis André Kini, la direction au système des Nations Unies, c'est-à-dire les forces Barkhane et autres là. Donc, chaque fois qu'il y a, que les enfants sont capturés, effectivement, c'est bien le terme, ces enfants nous sont remis. Et nous assurons la prise en charge en partenariat avec des centres, qu'on appelle des centres de transit et d'orientation, à Bamako, à Mopti et à Gao. Aujourd'hui, de 2018, de 2013, à cette année, à 2019, nous sommes à plus de 176 enfants sortis des rangs des groupes armés. 176 enfants. Ça, c'est les cas qui sont passés par nous. Il peut y avoir d'autres cas, et il y a effectivement d'autres cas qui ne passent pas par nous, qui sont soit des enfants auto-domobilisés ou bien d'autres sociétés partenaires par lesquelles ça part. Mais ceux qui sont passés par nous de 2013 à cette date aujourd'hui, on est à 176 enfants associé aux forces au gouvernement, donc retirer des groupes armés.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Alors, monsieur Toumani Ibrahim Tunkara, comment se porte la protection des enfants de la région de Mopti, vous qui êtes de Mopti?
Bon, moi qui suis de Mopti, nous avons vu que depuis l'attaque d'Ogosagou et l'autre village, les deux villages attaqués, la région de Mopti est devenue un site de déplacés. Plusieurs familles sont à Mopti juste parce qu'il y a l'insécurité dans leur village. Ils sont venus avec leurs parents, les enfants et leurs papas et mamans. Donc nous-mêmes, en tant que parlementaires des enfants, nous avons eu l'occasion de partir là-bas, de voir, parce qu'on a vu les situations dans lesquelles vivent les familles qui sont dans les sites de déplacés, comme le village SES à Sévaré. Nous avons vu que les enfants n'ont pas d'habits. Ils n'ont pas de nourriture. Donc, nous aussi, nous avons essayé de collecter des habits et chercher quelques sous pour amener ça au niveau des sites déplacés. Donc, moi, je dis que le gouvernement doit être là pour ses enfants et ses familles déplacées pour qu'ils puissent vivre pendant leur séjour dans la région de Mopti. Puisque je pense qu'il y aura la sécurité. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, nous avons aussi essayé de partir là-bas pour voir, parce qu'il y a aussi des petits-enfants, des petits bébés qui âgés de 5 à 6 mois comme ça. Nous avons aussi parti pour recenser les enfants qui ne sont pas enregistrés. Donc nous avons pris leur nom et nous avons amené ça au niveau du conseil régional de Mopti.
Alors, Madame Eliane Louti, quelles sont les mesures prises pour protéger les enfants en temps de conflit?
Donc, j'aimerais bien rebondir sur les propos de Toumani, parce qu'il soulève une question qui est très, très importante. C'est la question de l'enregistrement des naissances. Vous savez, ces enfants qui ont été les premières victimes de ces crises, c'est souvent les enfants les plus vulnérables. C'est des enfants qui sont dans des villages, des fois qui sont très isolés. C'est des enfants qui viennent des ménages les plus pauvres, donc qui vivent dans la pauvreté chronique. C'est des enfants parfois qui n'ont pas été enregistrés à la naissance, c'est des enfants parfois qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont jamais été à l'école. Donc on parle vraiment de communautés très, très vulnérables. Et vous savez qu'en termes d'enregistrement des naissances, le droit à l'identité, c'est vraiment le premier droit de l'enfant. Et c'est le droit qui permet à l'enfant aussi d'accéder à ses autres droits. Parce qu'un enfant qui est enregistré à la naissance va pouvoir aussi s'inscrire à l'école, va pouvoir accéder à des soins de santé quand il va au CESCOM. Donc, il est extrêmement important que tous les enfants bénéficient de ce premier droit. Et nous savons malheureusement qu'au Mali, il y a encore 13% des enfants qui ne bénéficient pas de ce droit. Et on parle bel et bien des enfants les plus vulnérables, ceux qui sont dans les régions les plus touchées par la crise. Donc, il est essentiel aussi qu'on investisse beaucoup plus dans cette activité-là, cette intervention clé qui assure les enfants leur premier droit. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est aussi d'investir beaucoup plus dans l'éducation. Nous savons que l'éducation pour les enfants qui vivent en situation de crise est vraiment peut sauver des vies. L'éducation, ce n'est pas seulement donner à l'enfant son droit fondamental à l'éducation, l'aider à préparer son avenir, l'aider à devenir un adulte qui peut contribuer à sa communauté et à sa société. L'éducation, c'est aussi une façon de protéger l'enfant. Ça veut dire que les structures scolaires, que ce soit des écoles formelles ou des structures informelles comme des espaces temporaires, par exemple, aident aussi à protéger l'enfant contre des abus éventuels. Nous savons par exemple que les filles qui sont déscolarisées, des filles qui vivent dans les régions où les écoles sont fermées, courent bien sûr beaucoup plus de risques d'être exposées par exemple au mariage d'enfants, d'être exposées à l'exploitation sexuelle ou à des abus, que les filles qui sont à l'école. Donc l'école joue aussi un rôle critique de protection de l'enfant. Donc je pense que sur le long terme, il est très important qu'on investisse beaucoup plus dans des interventions clés d'éducation et de protection pour créer cet environnement protecteur et s'assurer que ces enfants-là, les plus vulnérables, ne soient pas exposés à ce genre de violations graves.
Et Eliane Louty parle tout à l'heure que des enfants non vaccinés sont sur les sites de déplacés. Et qu'est-ce qui explique cette non-prise en charge pendant qu'on sait que l'État a fait des campagnes de vaccination au Mali?
Mais je vous ai dit un moment que chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, ça bouleverse l'ordre préétabli. C'est que le système traditionnel de routine de vaccination, ce système est coupé. C'est-à-dire que ce système est déstabilisé et brisé. Ce qui fait que, traditionnellement, habituellement, on sait que quand un enfant naît, il a droit à un certain nombre de séries de vaccination. Mais lorsqu'il n'y a plus de structure de santé pour assurer effectivement ces services-là de vaccination, lorsque, même si le service, n'est pas accessible, parce qu'il y a des risques, on est mort sur les mines, sur les, etc., sur les explosifs, des risques de guerre.
Mais les sites de déplacés sont à Mopti.
Je ne parle pas seulement des sites de déplacés. Vous savez que les sites de déplacés, ça, c'est des situations, c'est le truc, le minimum qu'on fait pour. C'est-à-dire que c'est une question de survie en ce moment. C'est différent que lorsqu'on est à un temps normal où effectivement les conditions sont réunies, effectivement les services sociaux de base sont assurés vraiment jusqu'à un certain niveau. Mais dans les camps, les sites de déplacés, vous savez que ce n'est pas la même chose qu'un milieu ordinaire où vraiment il y a tout un plateau technique, tous les intras.
Mais concrètement, qu'est-ce que l'État a fait pour ces enfants qui sont sur les sites, qui ne bénéficient pas de vaccination? Concrètement, qu'est-ce que l'État a fait par rapport pour ces enfants-là?
Mais je crois savoir qu'à un moment, il y avait, je parle sous le contrôle des gens de la santé, où effectivement, il y avait un moment, une sage qui disait qu'il y avait un problème de malnutrition dans telle ou telle zone et qu'il y avait des mesures qui étaient en cours.
C'est dans la commune de Mondoro.
Voilà, justement, et qu'effectivement, il y avait un problème de malnutrition. Je sais qu'il y avait, je crois savoir qu'il y avait toute une dynamique qui était en cours, effectivement, pour faire en sorte que ces enfants puissent être remis dans leurs droits. Faire en sorte qu'ils puissent être, en tout cas, ceux qui sont malnutris puissent être bien traités, hein, en les apportant tous les éléments nutritifs nécessaires. Et que c'est qu'il y aura beaucoup d'autres, il y aura tout un paquet d'activités, effectivement, autour de cette malnutrition. C'est que ce n'est pas seulement la malnutrition qui va traiter, mais tous les besoins en termes de santé, de survie, effectivement, seront effectivement pris en charge, j'imagine. Mais je sais quand même que l'État continue à faire. Chaque fois que cela est possible, chaque fois les conditions les permettent, effectivement, l'État n'a jamais effectivement baissé les bras par rapport à ça. Parce que tous les enfants ont les mêmes droits et on doit faire en sorte que chaque enfant puisse jouir de tous ses droits.
Toumani Ibrahim Atonka, quant à vous qui êtes sur le terrain à Mopti, est-ce que vous voyez réellement les actions de l'État en faveur de la protection des enfants dans la région?
Oui, moi qui suis à Mopti, moi je vois, depuis que nous avons sensibilisé, depuis que l'État même a vu que nous, les enfants parlementaires, nous essayons, nous faisons tout nos possibles pour aider ces enfants, ces familles déplacées. Je vois que l'État aussi, ils ont amené ils ont fait des dons de nourriture aux déplacés de Dogosagou et l'autre village. Ils ont fait des nourritures et ils ont amené aussi, ils ont posé à leur disposition des médecins pour leur santé. Lorsque l'enfant est malade, ce n'est pas la peine que la famille se déplace pour aller dans la ville pour aller soigner l'enfant. Donc il y a déjà des médecins à leur disposition. Parce que eux, ils sont déjà loin de l'hôpital. Donc, quand on dit qu'il faut se déplacer pour aller à l'hôpital, ça va être un problème. Donc, moi, j'ai vu que l'État aussi, il a fourni l'effort d'amener des médecins à la disposition des familles déplacées d'Ogosagou.
Alors, des ONG et associations de défense des droits des enfants sont presque partout. Pourquoi la situation stagne encore, Eliane Louty?
Permettez, j'aimerais peut-être juste rajouter par rapport à la vaccination, par rapport aux propos des autres intervenants. Il faut savoir que tout de suite après la mise en place du site officiel, le camp officiel déplacé au niveau de Socoura, donc à Mopti. Nous avons appuyé le ministère de la Santé pour faire une grande campagne de vaccination. Parce que, comme je vous ai dit, vous disiez avant, les enfants qui étaient sur le site, nous avons constaté très rapidement que c'était effectivement des enfants qui n'avaient pas tous été vaccinés. Certains enfants souffraient aussi de malnutrition. Donc, nous avons appuyé le ministère de la Santé pour faire une vaste campagne de vaccination pour tous les enfants. Tous les enfants qui sont sur le site ont été vaccinés contre la rougeole, par exemple, donc les enfants de 0 à 14 ans. Et nous avons aussi mené d'autres types de vaccination pour les enfants les plus petits. Donc, ça, c'est une action qui a été menée. Sur le site de Socoura, donc le camp officiel où il y a le plus de déplacés, il y a aussi une tente de santé où effectivement il y a des premiers soins qui sont disponibles pour les déplacés. Et nous avons aussi aidé aussi avec le dépistage des enfants qui sont arrivés sur les sites pour voir s'il y avait des enfants qui souffraient de la malnutrition et aussi appuyer bien sûr leur prise en charge pour ceux qui étaient affectés. Maintenant, par rapport à votre autre question. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours. Hein. Il y a la réponse à l'urgence dont on parle depuis quelques temps, qui est vraiment en cours avec les autorités locales, avec les ONG partenaires, avec les autres agences des Nations Unies. Donc, il y a une grande réponse qui est en cours. Néanmoins, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'actions de prévention qui peuvent être renforcées. Donc, je vous parlais avant, par exemple, du besoin d'investir beaucoup plus dans l'enregistrement des naissances et dans l'éducation, donc dans la création d'espaces sécuritaires d'apprentissage pour les enfants aussi comme un moyen de protection, mais aussi des choses à faire au niveau de l'amélioration du cadre légal qui protège les enfants. Donc nous faisons aussi un plaidoyer avec le gouvernement par rapport à l'adoption du code de protection de l'enfance révisé qui prend vraiment en compte les besoins spécifiques des enfants affectés par la crise. Donc par exemple, notamment qui criminalise les recrutements et l'utilisation des enfants par les groupes armés, donc les enfants de moins de 18 ans. Donc, il est très important qu'il y ait à la fois le cadre légal qui permet vraiment aux enfants de bénéficier de tous leurs droits d'un point de vue juridique et à la fois qu'il y ait aussi des interventions sur le terrain, beaucoup plus d'interventions, pas seulement des réponses aux enfants, aux besoins immédiats des enfants qui ont été créés par la crise, mais aussi des interventions sur le long terme, qui assure vraiment qu'on est en train de créer cet environnement protecteur pour les enfants, pour que les enfants ne soient pas exposés à ce genre de violations, pour commencer.
Alors, Madame Eliane parle tout à l'heure d'un besoin d'investir dans les actes de naissance. Qu'est-ce que la Direction nationale de la promotion de l'enfant a fait dans cette action ?
Non, déjà, bon, nous, en tant que structure nationale en charge des questions de protection de l'enfance, vous savez que nous sommes un domaine transversal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où l'enfant se trouve, nous devons faire en sorte que les secteurs, c'est-à-dire que les différents secteurs, que ce soit l'éducation, les enfants sont là-bas, non? La santé, donc, et d'autres secteurs, dont l'hygiène, etc. Donc, tous ces secteurs-là, effectivement, quelque part, ont comme cible des enfants. Notre rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ces acteurs-là, les acteurs de ces différents secteurs, effectivement, puissent prendre en compte effectivement les besoins spécifiques des enfants. De prendre l'éducation, les écoles qui sont fermées au centre. Donc,
dans son rapport, l'UNICEF parle de 900 écoles.
Voilà, justement. Donc, notre rôle, c'est faire en sorte qu'effectivement, comment faire en sorte que ces écoles puissent rouvrir. Elle a parlé de plaidoyer, elle a parlé de production. Donc, c'est des échanges, c'est des actions, des plaidoyers, de communication qu'il faut faire en sorte que
vous avez parlé d'ouverture des écoles. Concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Mais je réponds d'abord à votre première question, c'est par rapport à la raison des naissances. Je sais que nous, vous savez qu'on a des journées commémoratives dédiées aux enfants, que ce soit le 7 juin, le 20 novembre. Donc, ces journées sont pour nous des occasions pour mener le plaidoyer. Mener le plaidoyer pas nous seulement, mais les enfants aussi, parce que c'est les journées dédiées aux enfants. Le panneau des enfants, effectivement, c'est nous jouer un grand rôle, et même nous-mêmes, faire en sorte qu'on puisse attirer l'attention des autorités par rapport à des problématiques, par rapport à des vulnérabilités, à des situations, effectivement, qui piétinent, qui enfreignent, effectivement, aux droits des enfants. L'enfant de naissance, ça fait deux ou trois éditions où nous avons pris comme thème l'arrondissement des naissances. Faire en sorte qu'on puisse voir, surtout, l'accent était mis sur les zones affectées par la crise. Parce qu'on a vu, quelque part, madame l'a dit, que, effectivement, tous ces enfants qui sont nés pendant la crise n'ont pas eu la chance, forcément, d'être enregistrés. Même s'ils ont été, et même ceux qui ont été enregistrés avant la crise n'ont pas eu la chance encore d'aller retirer leurs actes de naissance. Et même ceux qui ont retiré leurs actes de naissance, souvent, dans les mouvements forcés et massifs des populations, il y en a qui ont tout perdu. Voilà déjà. Donc, ce qui fait que nous avons essayé de faire un plaidoyer. On a même élaboré un document de plaidoyer pour effectivement, parce que lorsque l'enfant n'a pas la naissance dans le délai, quand il y a crise, on ne prend plus de délai, hein, parce que les gens se cherchent. Ouais, déjà, il y a une masse importante d'enfants qui sont retrouvés sans acte de naissance. Et encore non enregistrés. Parce qu'on peut être enregistré sans poser son acte de naissance. Maintenant, il s'agit pour nous vraiment de faire en sorte que l'État puisse, de façon dérogatoire, à travers des mesures dérogatoires, faire en sorte qu'on puisse enrôler cette masse critique d'enfants. Parce que un des rapports aussi de l'UNICEF aussi a fait état à l'époque, en 2015, effectivement, d'un nombre important d'enfants qui se trouvaient dans cette situation de non-enregistrés dans le système de l'UNICEF. Donc, il s'agit pour nous de faire en sorte que les tests étant des tests, mais que l'État puisse vraiment prendre des mesures dérogatoires. Parce que la loi est très claire. Hein. L'enfant est né, il doit être déclaré au bout de 30 jours francs. S'il n'est pas déclaré, il tombe sous le coup du jugement subjectif. Et on sait que les frais liés à l'établissement du jugement subjectif dépassent de loin les frais liés à l'établissement d'un seul acte. Voilà déjà. Donc, alors que les populations, on sait, les gens qui vivent le jour au jour, les gens vivent dans la précarité, les moyens, effectivement, des populations sont tels que l'établissement du jugement subjectif, franchement, ça coûte cher et ça affecte énormément les enfants. Et des populations. Donc c'est pourquoi, quand vous faites une comparaison entre le coût d'établissement d'un acte de naissance et le coût, ou bien les frais liés à l'établissement d'un jugement subjectif, c'est que ça dépasse de loin. Donc c'est des sommes colossales effectivement, qui dépassent le pouvoir d'achat des populations.
Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas assez de pouvoir pour faire tout ça.
Non, quand on dit nous, c'est vrai que en réalité, les appartient à l'État. C'est l'État qui est le premier responsable par rapport à l'octroi. C'est-à-dire que l'État crée des stations, des structures, des services pour faire en sorte que les enfants puissent accéder à l'acte de naissance. Maintenant, lorsque ces conditions ne sont pas, ou bien ces conditions sont perturbées par une situation de crise, effectivement, ça n'a pas sans conséquence. Maintenant, il essaie de voir, au-delà de la réglementation en vigueur, qui est de faire en sorte que quand l'enfant est né, au bout de 30 jours, les parents doivent déclarer, ou bien quelqu'un d'autre, une autre personne de la communauté doit déclarer la naissance de tel enfant dans telle zone. Maintenant, si ce délai est dépassé, l'enfant tombe du coup dans ce qu'on appelle le jugement subjectif, comme j'ai dit tantôt.
D'accord.
Maintenant, et là, ça force un peu les données. Donc, il s'agit de faire en sorte qu'on puisse aller, de ne plus tenir compte de ce délai, parce qu'il y a une situation exceptionnelle qui est là. L'État doit faire en sorte qu'il puisse avoir des mesures dérogatoires, aller au-delà des 30 jours francs pour la déclaration, et faire en sorte qu'on puisse vraiment enrôler effectivement tous ces enfants. Donc c'est un peu ça. Des agents sont en cours et je sais que la direction nationale de l'État civil qui est la structure de tutelle par rapport aux questions d'enregistrement des naissances est encore beaucoup mieux placée pour donner peut-être des données beaucoup plus détaillées par rapport à ça.
D'accord. Toumani Ibrahim Konta, de quoi les enfants souffrent à l'école dans la région de Mopti?
Bon, dans la région de Mopti, moi je peux dire que ce sont les filles qui en souffrent le plus. Parce que dans la région de Mopti, nous avons constaté que dans les classes, il y a plus de garçons que de filles. Donc, il se peut que les familles ne sont pas sensibilisées par rapport à l'importance de l'instruction d'une fille à l'école. Donc, nous aussi, nous avons essayé de sensibiliser les familles. Nous avons fait une semaine durant laquelle nous partons dans tous les marchés de Mopti, Sévaré et Sokoura pour sensibiliser la population sur l'importance de l'instruction d'une fille à l'école. Et ensuite, on a eu l'occasion de passer par différentes écoles du cercle de Mopti, Mopti, Sévaré. On a sensibilisé les gens sur l'importance de l'instruction d'une fille à l'école pour que les parents puissent laisser leur fille aller à l'école. Parce que les filles doivent bénéficier du même droit à l'éducation que nous, les garçons.
Alors, Madame Eliane, vous avez parlé tout à l'heure dans l'explication du rapport que 99 enfants associés dans le groupe armé ont été retirés. Alors, quelles sont les dispositions prises pour leur prise en charge?
Donc, en fait, le chiffre 99, on parle des cas qui ont été enregistrés Maintenant, vous savez que les données par rapport au nombre d'enfants qui sont toujours dans les groupes armés sont extrêmement difficiles à obtenir, mais nous pensons qu'il y aurait encore des centaines d'enfants qui seraient encore dans les groupes armés. Maintenant, nous travaillons de près avec les autres partenaires humanitaires de protection de l'enfant et aussi avec le ministère de promotion des femmes, de l'enfant et de la famille pour assurer, dans la mesure du possible, bien sûr, la libération de ces enfants, de ces groupes, et aussi leur réintégration. Parce que libérer les enfants, ça ne suffit pas. Il est essentiel aussi qu'on leur donne des moyens de se réintégrer socialement, économiquement et se réintégrer de nouveau dans leur communauté et leur famille. Donc, par exemple, on a l'année dernière, donc en 2018, l'UNICEF a appuyé la réintégration socio-économique de 114 enfants qui avaient été libérés des groupes armés. Et ça sous-entend aussi, bien sûr, les appuyer, par exemple, avec des compétences, avec des compétences vocationnelles. Certains enfants, certains jeunes plutôt, ont bénéficié d'un appui pour ouvrir, par exemple, leur petite entreprise. Donc, il est essentiel que ces jeunes soient vraiment à pied pendant tout le processus de réintégration pour s'assurer qu'ils puissent retourner dans leur communauté, pas seulement en toute sécurité, mais puissent devenir des membres des communautés qui contribuent activement au développement aussi de leur communauté.
Pour protéger ces enfants, vous avez besoin de 4 millions de dollars. Comment comptez-vous mobiliser cet argent pour la protection des enfants et des femmes?
Donc effectivement, c'est l'appel que l'UNICEF a lancé en début d'année pour venir en aide à tous les enfants qui ont besoin d'appui psychosocial, de prise en charge pour les enfants victimes de violences sexuelles ou violences basées sur le genre, l'appui aux enfants associés dans les groupes armés pour leur libération et leur réintégration, et puis aussi, bien sûr, aussi l'appui à travers les espaces amis des enfants. Donc, c'est un appel qu'on a lancé en début d'année. À ce jour, nous avons uniquement mobilisé à peu près un tiers de cet appel. Donc, nous avons plusieurs bailleurs qui nous aident avec notre programme de protection en urgence. Donc, par exemple, la Belgique, la Suède, l'UNICEF France nous donnent un appui. La République tchèque nous donne un appui. Donc, ces bailleurs-là qui nous soutiennent dans ces actions. Mais effectivement, nous continuons à travailler avec les partenaires techniques et financiers pour combler les gaps, pour pouvoir vraiment apporter l'assistance qu'on souhaite apporter à tous ces enfants affectés.
Monsieur Haruna, vous avez parlé il y a un moment de 176 enfants qui ont été retirés de groupes armés. Comment se portent ces enfants-là aujourd'hui sans les armes?
Bon, il y a une période depuis que la crise a commencé en 2013. Effectivement, ces enfants, comme vous le savez, ont bénéficié d'une prise en charge. Après, la grande majorité ont été réunifiés. Maintenant, elle a dit quelque part par rapport à tous les défis liés à cette réunification. C'est-à-dire qu'une chose, c'est de retirer les enfants des groupes armés, d'assurer la prise en charge, une autre chose de la réunifier, mais comment faire en sorte que ces enfants ne puissent plus retourner aux armes, ne puissent plus retourner dans les rangs des groupes armés. C'est là où c'est notre devis. C'est pourquoi les actions de réintégration, selon des réinsertions socio-économiques, effectivement, doivent être bien pensées en tenant compte de l'environnement communautaire local, communautaire, pour que cet enfant effectivement puisse effectivement réussir dans la nouvelle chance qu'on lui donne. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de créer un autre problème en voulant aider les enfants. Je m'explique. Il ne faudrait pas que les gens comprennent que, sur la communauté, que cet enfant-là, à travers l'appui qu'on le fait pour sa réinsertion, que cet enfant-là aille tout seul parce qu'il a pris des armes.
Mais c'est 176 enfants qui ont bénéficié d'un accompagnement psychologique. En dehors de cet accompagnement psychologique, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié?
Oui, justement, quand on l'a dit, j'ai dit, quand on réunifie, elle est touchée. Vous savez que quand les enfants, quand on fait leur réunification, nous ne sommes pas seuls, on est avec les partenaires de CICR et d'autres partenaires, l'UNICEF, etc. Quand on les réunifie, il y a un minimum qu'on donne aux enfants. Les enfants en termes de quitter, mais aussi en termes de, en fonction de ce que l'enfant veut. Vous savez qu'au moment de la prise en charge, de la période de prise en charge, psychosociale, etc., on demande aux enfants, justement, le métier ou bien ce qu'il y a à faire. Il y en a qui vont parler d'autres choses, il y en a qui vont parler, je veux continuer avec les études, il y en a qui disent, bon, je veux telle formation professionnelle. Et en fonction des réalités du milieu, tout cela est étudié et l'enfant est accompagné. C'est vrai, les montants peuvent ne pas être suffisants et ce n'est jamais suffisant parce que les besoins sont là. Mais pour dire que le minimum quand même est fait pour au moins aider ces enfants à réintégrer à nouveau effectivement leur communauté et encore redémarrer une nouvelle vie. Une nouvelle vie de faire en sorte qu'ils puissent oublier tout ce qu'ils ont pu subir et leur donner une autre chance de réussite dans la vie.
Il nous reste peu de temps, on va essayer de faire réagir tout le monde. Monsieur Konta, quelles solutions préconisez-vous face à cette problématique des enfants?
Moi, je vais m'appuyer sur l'enregistrement des naissances. Que Tanti Eliane aussi a souligné. Au Mali, aujourd'hui, l'enregistrement des naissances est aussi pratiqué dans la région de Mopti, je veux dire dans ma région. Nous avons constaté que beaucoup d'enfants n'ont pas des actes de naissance, alors que le principal droit de l'enfant, ça, c'est l'acte de naissance. Parce que sans l'acte de naissance, l'enfant ne peut pas partir à l'école, vous voyez. Donc l'année dernière, en avril 2018, l'UNICEF nous a mobilisés en tant que parlementaires des enfants de faire porte à porte pour essayer de recruter, d'enregistrer les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Moi, je dis que c'est une très bonne initiative, que l'État, le gouvernement malien lui-même devrait faire tout son possible pour essayer d'enregistrer et d'accompagner les enfants pour bénéficier de leurs droits.
L'État doit accompagner. Eliane, quelle solution vous préconisez face à ce drame que les enfants subissent?
La protection et le bien-être des enfants, ça reste la première responsabilité de l'État, bien sûr, pas seulement au Mali, mais dans tous les pays. Et les partenaires restent, bien sûr, à disposition pour appuyer toutes les actions entreprises par l'État pour renforcer cette protection. Au-delà des interventions dont on a déjà parlé, qui sont essentielles, je pense qu'il y a un autre narratif à tenir, parce que On parle souvent d'enfants en tant que victimes, mais les enfants, c'est aussi une grande richesse. Les enfants, ça constitue plus de 50% de la population malienne. C'est un potentiel énorme. Je pense que quand on voit des enfants comme Toumani et d'autres enfants journalistes, d'autres enfants parlementaires, des jeunes acteurs pour la paix qui sont dans les régions de Mopti et de Ségou, qui sont en train de mener des actions qui sont extraordinaires. Donc, je souhaiterais aussi dire qu'investir dans les enfants, c'est vraiment investir dans le futur du pays. Les enfants ont énormément d'idées, ont énormément de solutions à nous apporter. Ils peuvent être des agents de changement positif durable. Donc, moi, je dirais que sur le long terme, ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'investir beaucoup plus dans l'enfance, en commençant par les premiers jours de la vie de l'enfant à travers des interventions comme l'enregistrement des naissances, comme la bonne nutrition des enfants, la préparation à l'école. Vraiment jeter les bases pour que chaque enfant grandisse dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse devenir des adultes plus tard, qui vont contribuer au développement socio-économique du Mali. Je pense que c'est extrêmement important de donner aux enfants les outils pour qu'ils puissent devenir des adultes modèles qui peuvent vraiment aider à bâtir leur propre pays.
Comment rendre justice à ces enfants victimes de conflits communautaires et de guerre en 30 secondes?
Rendre justice à ces enfants.
Comment rendre justice à ces enfants victimes de conflits?
Bon, comme on l'a dit, il faut investir. Parce que l'enfance, là, c'est la pépinière de la République. Hein. Les enfants constituent la pépinière, effectivement, d'une nation. Et lorsque vous avez une mauvaise pépinière, ne vous attendez pas à avoir, en tout cas, un pays où vraiment, en tout cas, où les gens seront heureux. Non. Vous voyez déjà, c'est vrai que tout se construit dès l'enfance. Je pense qu'il faut investir dans l'enfant et faire en sorte que, franchement, on puisse épargner les enfants, on puisse développer des mécanismes, faire en sorte que, quelle que soit la situation, qu'on puisse assurer le maximum de protection aux enfants et éviter tous ces carnages que nous avons vus et que, dont la majorité effectivement étaient des enfants.
Épargner les enfants pour dans les conflits, voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu l'honneur de la présenter. Nous réfléchissons sur la situation des enfants. Plus de 150 enfants ont été tués au cours du premier semestre 2019 selon le rapport de l'UNICEF. Et pour en débattre, nous étions avec Eliane Louti, elle est chef de communication à l'UNICEF, Aruna Samake, chef division protection de l'enfant à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, Toumani Ibrahim Konta, il est rapporteur général du bureau du Parlement des enfants de Mopti. Je suis Imrana Kilomaïga à la mise en onde de Nongiré. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci et bonne suite de programme.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Halo Dumondi.
Chien Niberi. Sigi Kafoba.